Considérons d'abord l'excès et le défaut en général, afin de savoir louer et blâmer à propos de tout ce qu'on dit de trop ou de trop peu dans des entretiens semblables à celui-ci. Voyons. Voici ce qu'il serait, ce me semble, convenable d'examiner. Quoi? La longueur et la brièveté, l'excès et le défaut en général, car c'est de tout cela que s'occupe l'art de mesurer. Oui? Divisons cet art en deux parties, car nous en avons besoin pour arriver où nous voulons. Et pour cette division, dis-moi, comment s'y prendre? Le voici. L'une des deux parties considérera la grandeur et la petitesse dans leur rapport, l'autre absolument et en elle-même. Comment dis-tu? Ne te semble-t-il pas naturel que le plus grand ne soit dit plus grand que par rapport à ce qui est plus petit, et que le plus petit ne soit appelé plus petit que relativement à cela seul qui est plus grand? Il me le semble. De plus, ce qui dans les discours et dans les actions dépasse le juste milieu ou reste en deçà. Ne dirons-nous pas encore que cela aussi est réellement et que c'est même ce qui distingue principalement parmi nous les bons et les méchants? Évidemment. Il nous faut donc poser cette double nature de la grandeur et de la petitesse et ce double jugement. Il ne faut pas nous borner à prendre le grand et le petit dans leur rapport l'un avec l'autre. Il faut plutôt, comme nous venons de le dire, reconnaître deux sortes de mesures du grand et du petit, selon qu'on les compare entre eux ou au milieu. Et voulons-nous savoir pourquoi? Oui? Si on ne permettait de comparer la nature du plus grand à rien autre chose qu'au plus petit, on n'aurait jamais recours au milieu, n'est-ce pas? Non, assurément. Mais avec une pareille méthode, ne traiterions-nous pas les arts eux-mêmes et leurs ouvrages, et n'anéantirions-nous pas aussi, et la politique qui est maintenant l'objet de nos recherches, et cet art du tisserand dont nous avons parlé? Car tous les arts de cette sorte ne supposent pas que l'excès et le défaut n'ont pas d'existence. Ils les admettent si bien qu'ils s'en défendent comme d'un danger dans leurs opérations. Et c'est par ce moyen, en conservant la mesure, qu'ils produisent tous leurs chefs-d'œuvre. Qui peut le nier? Mais si nous anéantissons la politique, nos recherches sur la science royale ne seront-elles pas désormais impraticables? Sans contredit. Eh bien donc, de même que nous avons prouvé dans le sophiste que ce non-être est, parce que c'est le seul moyen de sauver le discours, ne prouverons-nous pas semblablement ici que le plus et le moins sont commensurables, non seulement entre eux, mais aussi avec un milieu réel? Car on n'admettra pas qu'il puisse y avoir ni la politique ni nul homme habile dans les choses pratiques, tant que ce point ne sera pas accordé. Il faut donc absolument nous en occuper sur l'heure. Cette nouvelle affaire, Socrate, est encore plus considérable que l'autre. Et pourtant, nous n'avons pas oublié combien celle-ci a été longue. Mais au moins, il est de toute justice de supposer ici une chose. Laquelle? Qu'il ne serait pas seulement besoin de ce que nous venons de dire pour la définition de l'exactitude, mais que même pour arriver à la démonstration claire et complète de l'objet de notre présente recherche, nous trouverons un secours merveilleux dans cette idée, qu'on ne peut admettre l'existence d'aucun art sans reconnaître celle d'un plus et d'un moins susceptibles d'être mesurés non seulement entre eux, mais avec un milieu réellement existant. Si ce milieu existe, le plus et le moins existent aussi. Et si le plus et le moins existent, ce milieu existe aussi. Et si l'un des deux termes n'existe pas, aucun des deux ne peut exister. Voilà qui est bien, mais ensuite, il est évident que pour diviser l'art de mesurer comme nous l'avons dit, nous aurons à y distinguer deux parties, dont l'une contiendra tous les arts dans lesquels le nombre, la longueur, la profondeur, la largeur et l'épaisseur ne mesurent pas leur contraire, et l'autre, tous ceux qui prennent pour mesure le milieu, le convenable, l'à propos, le nécessaire, et tout ce qui s'y trouve également éloigné des deux extrêmes. Tu parles là de deux visions bien vastes et bien différentes l'une de l'autre. Oui, Socrate. Et ce que beaucoup de doctes personnages avancent quelquefois comme une sage sentence, que l'art de mesurer s'étend à tout ce qui arrive dans le monde, c'est précisément ce que nous disons maintenant. En effet, tous les ouvrages de l'art participent en quelque sorte de la mesure, mais faute d'être habitué à considérer les objets en les divisant par espèces, on s'empresse de réunir ensemble des choses aussi distinctes que celles-ci. On s'imagine qu'elles sont semblables et en retour on divise par partie des choses qui ne sont pas différentes. Au lieu de cela, il faudrait, après avoir reconnu dans plusieurs objets un caractère commun, ne pas les abandonner avant d'avoir découvert sous cette ressemblance toutes les différences qui peuvent se trouver dans les espèces diverses. Et pour les différences qu'on peut apercevoir dans une foule d'objets, il faudrait qu'on fût incapable de se lasser de cette vue, avant d'avoir réuni tous les objets de la même famille, sous une ressemblance commune, et de les avoir renfermés dans l'unité essentielle d'un genre. Mais en voilà assez sur ce point et sur l'excès et le défaut. Prenons garde seulement que nous avons trouvé deux espèces de l'art de mesurer et rappelons-nous ce que nous avons dit de ces divisions. Nous nous le rappellerons. À ces considérations, ajoutons-en encore une autre sur l'objet même de notre recherche et sur tout ce qui se passe en général dans les discussions du même genre. Que veux-tu dire ? Quelle serait notre réponse à celui qui nous demanderait, au sujet de ceux qui se réunissent pour apprendre leurs lettres, si nous pensons que lorsqu'on interroge l'un d'eux sur les lettres dont se compose un mot quelconque, son but est de satisfaire à la seule question qui lui a été faite, ou bien plutôt de devenir plus habile sur toutes les questions semblables qu'on pourrait lui proposer ? Il est évident que c'est pour devenir plus habile sur toutes. Et nos recherches présentes sur le politique, nous les sommes-nous proposées pour le politique lui-même, ou plutôt pour devenir plus habile dialecticien sur tous les sujets ? Il est aussi très évident que c'est pour être plus habile sur toute espèce de sujet. Certes, il n'y a pas un homme de sens qui voulut rechercher la définition de l'art du tisserand pour cette définition même. Mais ce qui a échappé, ce me semble au plus grand nombre, c'est que pour certaines choses, il y a les images sensibles, aisées à comprendre, qu'il est commode de présenter lorsque quelqu'un demande la raison d'une chose et qu'on veut la faire connaître sans aucune peine et même sans aucune explication raisonnée. Mais qu'au contraire, pour les choses grandes et relevées, il n'existe point de ces simulacres qui mettent l'évidence sous les yeux des hommes et qu'il suffise de présenter à celui qui vous interroge, quand vous voulez le satisfaire, en s'adressant à quelqu'un de ses sens. Il faut donc travailler à nous rendre capables d'expliquer et de comprendre nous-mêmes toutes choses par la raison. Car c'est par la raison seulement, et par aucun autre moyen, que se manifestent clairement les choses incorporelles, qui sont aussi les plus grandes et les plus belles. Et c'est à elle que se rapporte tout ce que nous disons ici. Mais il est beaucoup plus aisé de s'exercer sur de petites choses que sur de plus grandes. Tu parles fort juste. Souvenons-nous bien pourquoi nous avons dit tout ceci. Pourquoi ? C'est surtout à cause de la patience que nous a fait éprouver la longueur de nos discours sur l'art du tisserand, et auparavant sur la révolution du monde, et de ceux que nous avons tenus dans le sophiste sur l'existence du non-être. Nous nous sommes persuadés qu'en tout cela, nous nous étions trop étendus, et nous nous sommes accusés nous-mêmes, craignant de dire des choses à la fois trop longues et superflues. Souviens-toi donc que c'est pour ne plus retomber à l'avenir dans la même erreur que nous venons de dire ce qui précède. Je le ferai. Continue seulement. Je dis donc qu'il faut que toi et moi, gardant la mémoire de ce que nous avons dit tout à l'heure, nous ne prenions plus désormais pour règle notre blâme ou de notre approbation, de la longueur ou de la brièveté de nos discours, la longueur relative. Mais que nous nous servions de cette partie de l'art de mesurer qu'il ne faut pas, avons-nous dit alors, perdre de vue, celle qui compare les choses à ce qui est convenable. Bien. Mais il ne faut pas non plus tout sacrifier à cette mesure. Nous ne nous ferons pas faute d'une longueur qui pourrait donner du plaisir, à moins qu'il ne soit hors de propos. Quant à la considération de la plus grande facilité et de la plus grande vitesse possible dans la solution du problème cherché, la raison nous recommande de la mettre qu'en seconde ligne et non pas en première, mais d'estimer bien davantage et par-dessus tout la méthode qui nous met à même de diviser par espèce. Et si une discussion prolongée rend l'auditeur plus pénétrant et plus inventif, de nous y livrer, sans nous impatienter de cette longueur, ou si au contraire il faut être court, d'y consentir de même. Enfin, outre tout cela, si quelqu'un dans ces sortes de conversations blâme les longueurs du discours et n'approuve pas ces cercles dans lesquels on tourne, il ne faut pas laisser cet homme s'en aller là-dessus bien vite, sans avoir rien fait que de trouver trop long ce qui a été dit. Il lui reste à faire voir comment la discussion, si on l'eût abrégée, aurait rendu ceux qui y prenaient part plus habiles dialecticiens et plus capables de démontrer les choses par le raisonnement. Quant aux autres éloges ou reproches, il faut ne nous en inquiéter en rien et ne paraître même pas les entendre. Mais en voilà assez sur ce point. Si toutefois c'est aussi ton avis, revenons au politique et appliquons-lui l'exemple de l'art du tisserand dont nous venons de parler. Rien de plus sage. Faisons comme tu le dis.